avec l'Association européenne de radio Euranet.
Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowanie.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Bienvenue à Marseille à l'occasion des 18e rencontres d'AveroS. Les rencontres d'AveroS, une fois par an à Marseille, sont l'occasion de s'arrêter un moment pour réfléchir sur les grandes interrogations qui traversent les deux rives de la Méditerranée. Et bien évidemment, les révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye ont imposé le tempo des débats cette année. Ces révolutions ont-elles modifié le regard croisé que l'Europe et l'islam se portent? Sachant que cet été, par exemple, un jeune Norvégien du nom d'Anders Behring Breivik, qui se présente comme un croisé en guerre contre l'islam, a froidement abattu plusieurs dizaines de jeunes militants socialistes norvégiens. L'Europe et l'islam, la liberté ou la peur, Carrefour de l'Europe est à Marseille. Thierry Fabre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le créateur et la bonne âme de ces rencontres d'AveroS.
Bonne âme.
Si.
Vous y allez ?
S'il est parfois difficile de trouver la bonne thématique, cette année, cela a été facile, tant ces révolutions arabes sont un moment important de l'histoire contemporaine.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des révolutions arabes, mais on a aussi essayé de mettre en perspective historique la question de la relation entre l'Europe et l'islam. Je crois que on peut pas comprendre l'instant sans s'inscrire dans des longues généalogies qui vont des croisades, de la colonisation jusqu'aux indépendances, confisquées, qui expliquent sans doute pas mal de choses à propos des révolutions arabes.
Alors autour des micros de Carrefour de l'Europe, vous avez réuni quatre grands témoins ou grands observateurs des relations entre l'Europe et l'islam. Farida Belkacem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, et l'IRIS c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vos travaux tournent autour des relations entre l'Europe et l'islam. Je simplifie un peu, mais c'est ça, vous êtes d'accord?
Je simplifie un peu.
C'est pas grave. Margaret Spohn, bonjour.
Bonjour.
Guten Tag.
Guten Tag.
Vous êtes allemande et sociologue. Vous vous êtes intéressée très tôt aux problèmes migratoires de votre pays. Bonjour, Fethi Ben Slama.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste tunisien et vous vivez à Paris. Votre dernier livre, Soudain, La Révolution, est publié chez De Noël. Enfin, Alaa El Askouani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et peut-être le plus connu des écrivains égyptiens, mais vous êtes un personnage de roman à vous tout seul. Puisque, parallèlement à votre activité d'écrivain, vous exercez au Caire la profession de dentiste. Alors, Dieu merci, j'ai jamais eu l'occasion de m'asseoir dans votre fauteuil, et j'espère que, etc. Je ne doute pas que vous soyez un bon dentiste. Je suis sûr que vous êtes, par contre, un grand écrivain, unanimement reconnu. Votre livre le plus célèbre, traduit pratiquement dans 20-30 langues, L'immeuble Yacoubien, c'est un livre fantastique, et si vous ne l'avez pas lu, précipitez-vous. Et puis vous êtes aussi un acteur de la révolution égyptienne, et vous en avez tenu les chroniques de la révolution égyptienne. Tous vos livres sont publiés chez Actes Sud. Alors, si on regarde les rapports entre l'Europe et l'islam, on peut partir d'un sondage très récent. 42% des Français et 40% des Allemands considèrent que la présence d'une communauté musulmane dans leur pays est plutôt une menace. Alors, votre interprétation de ce sondage, Thierry Fabre?
Déjà, le terme de communauté musulmane me plaît pas du tout. Je pense que
j'ai pas ce qui était dit dans le sondage.
Oui,
hein.
Bien sûr. Mais c'est des musulmans. Donc, on voit bien qu'il y a un imaginaire qui s'est construit, un imaginaire de la peur, qui n'est pas totalement infondé. Parce que c'est vrai que les pratiques de violence, de terreur, d'attentats, dont les musulmans d'ailleurs sont les premières victimes, il faut pas, quand même pas l'oublier, ont fait que, voilà, un imaginaire de la peur s'est installé en Europe. Je crois qu'il y a un prisme extrêmement dangereux qui est en train de naître aujourd'hui en Europe, qui confond tout. Et on voit effectivement les assassinats méthodiques de Anders Breivik, qui tue 80 de ses compatriotes un par un, parce qu'il veut défendre la pureté de l'Occident chrétien au nom de la peur de l'invasion musulmane. Il y a aujourd'hui quelque chose de très grave qui est en train de se nouer. Et Anders Breivik, on ne l'a pas qualifié curieusement de terroriste. Moi, j'ai été très frappé. C'est quelqu'un qui tue comme ça 80 personnes. C'est pas un terroriste. Mais c'est vrai qu'il avait les yeux clairs et les cheveux blonds. Et d'ailleurs, Tariq Ali, qui est venu pour les rencontres d'AveroS, disait que les premières réactions britanniques et même allemandes ont été de solidarité face au terrorisme islamique. Après, ils sont vite repris. Tiens, soudain, non, les attaques viennent pas de là. Il y a, je crois, quelque chose qui est en train de prendre forme en Europe, sur lequel je crois il faut être extrêmement vigilant.
Alaa El Askouani, est-ce que vous comprenez ce malaise qu'indique ce sondage, vous qui êtes égyptien et qui regardez l'Europe depuis le Caire, même si connaissez très très bien l'Europe et notamment
la
France.
Oui, mais je pense que c'est une question qui n'est pas nouvelle en fait. C'est une question qui existe depuis longtemps, je dirais même depuis des siècles. Pour dire la vérité, la relation politique entre l'Occident et le monde arabe était toujours, n'était jamais une relation gentille.
Si vous,
oui, on voyait, mais on doit voir la différence ici entre tout ce qui est politique et ce qui est humain. Le problème, c'est que l'histoire qu'on lit, c'est l'histoire politique. Vous voyez, l'histoire des royaumes qui font la guerre pour monopoliser l'argent et le pouvoir. Moi, comme romancier, je suis sûr qu'au-dessous de cette histoire politique, il y avait toujours une histoire humaine. Nous sommes à Marseille. Marseille est vraiment le modèle pour une tolérance humaine qui a existé toujours entre les Arabes et les Occidentaux. L'Andalousie, c'est impressionnante, l'histoire de l'Andalousie. Alors, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est de garder tout ce qui est humain contre tout ce qui est politique, vous voyez, de penser aux autres comme êtres humains et pas sous des titres. Parce que quand on utilise les termes suivants, les Arabes, les Occidentaux, les Juifs, les Musulmans, on fait ce qu'on appelle la déhumanisation. Ces gens ne sont plus pour nous des êtres humains comme nous, mais sont les autres, vous voyez. Ça facilite le racisme, ça facilite le terrorisme, etc. Alors, moi, je pense que notre rôle est de chercher tout ce qui est humain dans ce combat.
Farida Belkacem, quelle est votre interprétation à vous? Comment vous expliquez ce sondage qui est quand même assez fort, 40%, que ce soit en Allemagne ou en France, c'est énorme.
Je poursuivrai exactement dans ce que viennent de dire Thierry Fabre et Alassouani, dans le sens où on a un quotidien avec des individus qu'on connaît, nos voisins, notre voisine qui porte un foulard, et ça ne nous fait ni chaud ni froid. Et puis, on a un construit médiatique, on va dire, mais qui est aussi qui existe dans le discours public, également enfin de personnages publics. Un construit autour de l'islam qui serait synonyme de lapidation, charia, soumission des femmes, polygamie et tout ce qui va autour. Donc finalement, il y a toujours cette dichotomie, je dirais, cette double existence entre un quotidien qui finalement se passe plutôt bien et sincère, enfin en France, je dirais vraiment plutôt bien. Et puis, ce que les gens s'imaginent, cet imaginaire qui vient cacher la réalité dans ce qu'elle est, dans les faits. Et ça, c'est très visible dans ces espèces de sondages-là, en fait.
Marie, une différence entre la France et l'Allemagne ou pas? Enfin, est-ce que ce sondage tenterait à prouver que non? Mais une différence, vous sentez-vous une différence?
Malheureusement pas. Alors, ce que je constate, c'est la construction de l'autre. Cela a marché, il y a 10 ans, envers les étrangers. Alors, l'étranger était l'autre. Et après, le 11 septembre, l'autre, c'était le musulman. Alors, on constate, en Allemagne comme en France maintenant, qu'il y a en construction dans les médias que l'autre, c'est pas nous, c'est l'autre, c'est le musulman. Alors, il y a une fossé entre le nous et le vôtre. Et ça, c'est quelque chose où on voit toujours, c'est l'autre, c'est qui est dangereux pour la société. Si on regarde les images, on voit toujours les masses. On voit toujours les hommes, on voit toujours les femmes tout en noir. Alors on crée une image de crainte, de peur. Et ça se trouve dans les sondages.
Fethi Ben Menslama, quel est le regard du psychanalyste que vous êtes lorsque vous entendez les résultats de ce sondage?
La première question que j'ai envie de poser, c'est de me dire, ce sentiment de peur, cette émotion, la peur est une émotion, n'est-ce pas? Un sentiment, elle est venue à la place de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant la peur? C'est la première chose que j'ai envie de dire.
Et qu'est-ce qu'il y avait?
Je crois qu'il y avait le mépris avant, hérité de la colonisation, et là il y a la peur. Donc il y a quelque chose qui a changé. Alors le mépris, ça veut dire quoi? Le mépris, l'autre est inconsistant. Il n'a pas vraiment, on le méprise, c'est un déchet, c'est un négligeable. La peur donne une surconsistance, elle donne une consistance beaucoup plus grande à l'autre, mais une consistance telle, vous voyez, en passant du mépris, c'est rien, c'est pas important. Je vais pas revenir sur les qualificatifs qu'on utilisait à l'époque.
Vous êtes presque en train de positiver la peur, finalement.
Non, je suis pas en train. Moi, mon rôle, c'est pas. Je suis psychanalyste, donc je ne positive. Le mépris n'est pas bien, la peur n'est pas bien non plus. Mais je note un changement de registre. Ce changement de registre, il faut qu'on le prenne en compte. Quand j'ai peur de quelqu'un, ça veut dire que l'autre, il a une consistance autre que celle que du mépris que je pouvais avoir pour lui. Alors, toute la question, là, c'est le travail qui va consister. Vous savez, les sentiments, les affects, les sentiments, ça change, ça se substitue, ça s'accroche. Et donc, c'est comment, aujourd'hui, changer, passer de... C'est la question qu'on se pose. Et Thierry Fabre, ce qu'il fait là, et ce que d'autres font, mais ce qu'ils font, c'est comment passer... C'est très difficile de passer du mépris au respect.
Il faut passer par la case peur ou
alors peut-être, oui, l'histoire est faite, malheureusement, les émotions ont une histoire différente de des histoires. Alors, pourquoi passer du mépris à la peur? Parce que il s'est passé beaucoup de choses quand même dans le monde musulman. Il y a eu le 11 septembre. C'est vrai que le 11 septembre est un événement qui a transformé les rapports, il faut qu'on le dise. Dans quel sens? Tout d'un coup, la plus grande des puissances du monde s'est sentie vulnérable. À tort ou à raison, il y a eu ça. Et donc, il y a quelque chose qui peut, en effet, inviter à la peur, à prendre en compte l'autre autrement, à ne pas le mépriser. C'est peut-être quelque chose qui est, aujourd'hui, à travailler dans un sens, ou dans le sens où nous devons, peut-être, en effet, faire un chemin qui est peut-être beaucoup moins grave que celui du mépris. Voilà ce que je dis. Moi, je dis ça. Je fais un constat. Je dis pas que c'est positif. Je dis, voilà, l'histoire a évolué comme ça.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe est à Marseille. L'Europe et l'islam, la peur ou la liberté. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un islam européen ou pas? Qui veut répondre à cette question?
Je vais quand même parler des islams européens, des trajectoires historiques liées à différents contextes, parce que d'abord, les provenances, les pays de provenance, et même, est-ce qu'on vient d'un monde rural, d'un monde urbain? Est-ce qu'on vient du Pakistan, d'Indonésie, comme ça peut être le cas, ou d'Inde, comme ça peut être le cas en Angleterre, ou plutôt du Maghreb, en France? Je veux dire, les choses sont... cette complexité, cette diversité-là est extrêmement importante parce que il y a différents types de trajectoires et le prisme médiatique tend à confondre et à unifier, massifier quelque chose qui doit être au contraire diversifié. Et à partir de là, de parler peut-être d'un peu autre chose que ce qui est mis en avant, qui est souvent uniquement les tensions, les drames, les incompréhensions. Alors c'est vrai que on n'aime pas parler des trains qui arrivent à l'heure, on n'aime pas parler des choses qui vont bien, mais moi je suis quand même frappé que quoi, c'est 5%, 10% des femmes en France qui portent le voile et 0,1% qui se mettent la burqa. Et pourquoi on parle pas des autres? C'est-à-dire celles qui sont des femmes libres, qui sont fières de leur corps, se marient avec des Français, sont dans une très contestataire, on le voit dans les mouvements sociaux. Voilà, je pense que il y a cette multiplicité des trajectoires des islams européens. Je pense que c'est, si au moins on pouvait retenir quelque chose de ces rencontres d'Averroès, c'est au moins ça.
Marguerite Spahn, vous vouliez réfléchir à un islam allemand différent d'un islam français, par exemple?
Je crois oui, parce que ça dépend du pays où j'habite, comment je peux vivre ma religion. Si je regarde la situation en Allemagne, alors les musulmans sont venus en Allemagne à partir des années 60. Ça, c'est surtout les gens de la Turquie et aussi de la Bosnie. Et la première génération qui est venue, il a essayé de vivre l'islam comme c'était la coutume en Turquie. Et maintenant, il y a une deuxième et troisième génération des jeunes, et eux, ils veulent vivre l'islam en Allemagne. Et ça va être différent de la façon dont leurs parents ont vécu l'islam dans leur pays d'origine ou en Allemagne. Alors je crois que maintenant, on va se développer une façon de vivre l'islam dans un pays comme la France, l'Allemagne. Et la façon de vivre l'islam va être en France différente de celle de l'Allemagne ou de l'Italie.
Alors en tout cas, effectivement, un islam très différent en Europe ou par rapport à celui qui est pratiqué en Tunisie, vous qui êtes un Tunisien qui vit en France?
Bah, l'autre jour, je marchais dans la rue, j'ai rencontré un islam qui m'a donné une claque.
Un musulman ou
l'islam.
C'est-à-dire.
Non mais vous voyez, on fait de l'islam comme si c'était un sujet, mais ça n'existe pas. L'islam comme sujet, ça n'existe pas. Ce que veut dire Thierry quand il met au pluriel, on traite l'islam comme si c'était une personne ou un sujet qui a. Non, l'islam c'est une espèce de galaxie dans laquelle il y a plein de planètes, beaucoup de planètes, beaucoup de planètes.
Et on les a pas toutes découvertes.
Certaines on les a pas découvertes, certaines on veut pas les voir, certaines sont passent derrière ce qu'on voit le plus, etc., etc. Et donc il faut bien se rendre compte que l'islam n'existe pas. Ce sont des textes, c'est une référence, c'est quelque part dans une sorte de, c'est une constellation, si vous voulez, et qu'il y a des musulmans. Bon, et qu'il y a des musulmans, et ces musulmans, eh bien, vivent de différentes manières, exactement comme il y a des chrétiens qui vivent le christianisme de différentes manières. Il y a des chrétiens qui sont d'extrême droite, qui sont insupportables, et il y a d'autres qui sont des gens absolument formidables. Il y a des chrétiens athées, ils restent néanmoins chrétiens, par leur culture, etc. Et il y a à peu près des choses comme ça aussi qui se passent dans le... Il y a des musulmans qui ont une petite pratique. Vous savez qu'en Tunisie, il y a 70% des gens qui ne vont pas à la mosquée, qui ne font pas leur prière. 70%. Ce sont des chiffres qui sont proches de l'Europe. Ailleurs, il y a des gens qui se contentent de faire le ramadan, c'est tout. Ils payent une sorte de, comme ça, de dîme pour la... Et puis après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Aujourd'hui, je crois, c'est un des pas qu'on devrait faire, c'est déjà de ne plus parler d'islam et de parler de musulmans. Il y a des musulmans en Europe, et c'est intéressant, ils sont dans des pays démocratiques, des pays riches, et ils sont en train de faire tout un travail pour être comme les autres Européens. Et pour certains d'entre eux, ça leur est difficile. Ils ont besoin, ils ont peur de se fondre dans cette masse-là. Ils se montrent. Pour se convaincre eux-mêmes d'abord. C'est ça, des femmes qui mettent le voile, qu'elles font pourquoi ? Pour qu'elles soient vues, voilées. Et donc, ils ont, certains, en se rendant visibles, pensent pouvoir se convaincre qu'ils sont toujours, ils ont peur de cesser d'être le musulman tel que leurs parents l'ont été, ou leur, voilà. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, il y a tout un travail de culture, qui va faire en sorte que ces musulmans se sentent bien en Europe, qu'ils ne soient plus source de crainte. C'est ça, c'est la question de la... En fait, c'est pas la peur, le bon mot, c'est la crainte. La crainte est quelque chose dont Spinoza parle. La crainte peut être du côté du plus fort. Le plus fort peut éprouver, justement, de la crainte.
Quand on, faible. Quand on craint, on se sent menacé. On revient un peu au sondage.
Oui, absolument.
D'un mot, Farida Balkhana, mais vraiment d'un mot, car nous arrivons presque au terme de cette première partie. J'ai senti que vous vouliez réagir.
Non, je voulais réagir sur le fait que parmi les personnes dites musulmanes en France, il y a, d'après le dernier sondage de la Croix, 41% de croyants et de pratiquants. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui sont croyantes, et puis il y en a beaucoup aussi, presque quasiment un tiers en France, qui se sont éloignés silencieusement de la foi. Et ces personnes-là, je pense, sont... Il faut les prendre en considération, il faut faire attention à ça et savoir ce que ça peut impliquer. Quand on a des discours islamophobes, ben ces personnes-là, même si elles se sont éloignées de la foi, restent de tradition musulmane et se sentent attaquées. Donc finalement, c'est très compliqué de parler de musulmans en France, parce qu'en effet, on ne veut pas essentialiser, parler d'un islam, etc. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un islam européen. Je pense qu'il y a une diversité tellement énorme que c'est très compliqué de parler de communautés ou de... Voilà. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi au fait que parmi les 10 musulmans, il y a des musulmans qui ne croient plus. Pour autant, je suis pas d'accord avec le fait de dire des femmes qui portent un voile et puis d'autres qui sont fiers de leur corps. On peut porter un voile et être fier de son corps. On peut être libre dans sa tête et avoir un bout de tissu sur ses cheveux. Je crois pas du tout que ce soit contradictoire.
Ne vous opposez pas.
On va y revenir. On va faire une petite pause. Carrefour de l'Europe à Marseille, dans le cadre des 18e rencontres de la VROS. On va se quitter juste 3 minutes. Le temps des infos sur RFI, RFI la radio du monde et de l'Europe. À tout de suite.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκές ξεροβάνια.
Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, toujours à Marseille, toujours dans le cadre des rencontres d'AVROS, les 18e du nom. Le thème, l'Europe et l'islam, la liberté ou la peur. Et nous sommes avec Thierry Fabre, le créateur, l'inventeur, l'âme des rencontres d'AVROS, avec Farida Belkacem, chercheur à l'IRIS, avec Margaret Spohn, sociologue allemande, avec Fethi Benslama, psychanalyste tunisien, et avec Alaa El Aswany, écrivain, surtout écrivain, l'auteur de l'immeuble Yacoubian. Alors, on a mis en évidence le fait de cette incompréhension entre, parfois, la crainte, disait Fethi Ben Slama, la crainte des Européens non musulmans face à ces musulmans qu'on a un peu de mal à comprendre. Alors, une des raisons, c'est peut-être parce que les partis politiques ont abandonné le débat. Quand je dis les partis politiques, je parle des partis politiques classiques, qu'ils soient de gauche et de droite, ce qui fait que ce sont les partis un peu extrémistes, et souvent l'extrémisme de droite, qui ont repris le débat à leur compte, toujours sous forme de radicalisation. Thierry Fabre ou Farid Abelkassem, Thierry Fabre.
On voit bien que la radicalisation de l'extrême droite européenne se joue sur l'immigration et sur l'islam. En Suisse, aux Pays-Bas, la Ligue du Nord en Italie, en Norvège, au Danemark. Enfin, on peut faire un tour de l'Europe comme ça qui est en train de se constituer. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser là. C'est un nœud. Un nœud qui peut être extrêmement dangereux pour la suite. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente comme forme de discours, comme petite musique destructrice qui peut naître. Et Jean Bobéro, à propos de certains débats et de certaines paroles tenues sur l'islam, moi je n'aime pas du tout le terme d'islamophobie, parce que la phobie c'est autre chose, je pense que Fethi Ben Slama pourra peut-être préciser, mais il disait, mettez à la place de ce qui est dit à propos de l'islam et des arabes, mettez juif, judaïsme, et vous allez entendre quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous donner l'impression que quelque chose, non pas identique, mais de comparable à ce qui se jouait dans les années 30 est en train de voir le jour. Et je crois qu'il faut arriver à casser ce discours-là et à sortir de cet imaginaire de la peur qui peut devenir prépondérant, surtout dans des périodes de crise économique et financière, de crise, de tension. Alors c'est vrai que les révolutions arabes, comme dirait René Char, nous envoient une salve d'avenir et donc une possibilité d'avoir un autre rapport à la liberté et à sortir du mépris. Mais il n'en reste pas moins que cet imaginaire de la peur est prépondérant et prégnant. Et je crois qu'il faut inventer des formes nouvelles d'être ensemble.
Alors on partait un instant avec vous, Thierry Fabre, des partis extrémistes. Néanmoins, on peut constater que Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et David Cameron, donc les leaders français, allemands et britanniques, ont pratiquement tous au même moment, à quelques semaines d'intervalle, remis en cause le multiculturalisme, le fameux multicul allemand. Alors, c'est aussi, ou pas, j'en sais rien, vous allez nous le dire, un repli ou pas sur soi, le fait que effectivement, ça sous-entend que, eh bien, les valeurs de l'islam ne sont pas partageables avec les valeurs de l'Europe. Les valeurs de l'Europe, on peut les rappeler, la démocratie, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et lorsqu'on voit qu'on ne peut pas caricaturer Mahomet, effectivement, on peut s'interroger sur la liberté d'expression vu d'un point de vue de l'islam. Qui veut répondre? Farida Belkacem, qui poliment lève le doigt.
Fallait pas le dire. Non, je dirais que ça fait bien longtemps déjà que notre discours public est contaminé par les idées de l'extrême droite. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant à l'égard du FN pour la France et des autres partis d'extrême droite. Pour autant, je pense qu'en France, le mouvement de crainte à l'égard de l'islam est entamé depuis très longtemps. Et je pense que c'est un discours qui a été banalisé. Ce qui explique certainement que le fait que les attaques anti-islam, c'est-à-dire des attaques contre des cimetières, contre des mosquées, les injures, les attaques verbales, etc., sont complètement minimisés dans le quotidien, on n'en entend pas parler. Et il faut aller sur des sites communautaires musulmans, entre guillemets, donc sites type Islamophobia Watch, pour apprendre certaines choses qui se produisent dans notre pays et dont on ne nous tient pas au courant. Et ça, pour moi, c'est le vrai danger. C'est la banalisation du mal, en quelque sorte.
Est-ce qu'il n'y a pas de banalisation un petit peu de tout? Une banalisation, pas spécialement de ce qui peut arriver aux musulmans, il y a une banalisation de tout dans notre société en même temps, non?
Il y a quand même peu de choses qu'on assimile aussi automatiquement à quelque chose de négatif que l'islam. Je veux dire, l'islam, aujourd'hui, en soi, c'est pratiquement quelque chose dont il faut avoir honte. Il faut toujours s'expliquer. Il faut dire, quand Abdeljalil décide d'évoquer la charia, on commence à vous dire, mais alors, toi, t'en penses quoi de la charia? T'es pour la polygamie ou pas?
Mais ça vous choque quand on vous pose la question? Ça vous choque quand on vous pose la question?
Ouais, sincèrement, oui. J'avoue que j'ai pas forcément la tête de quelqu'un qui adorerait la polygamie. Donc oui, ça me choque un peu. C'est ressortir cette altérité sans cesse. Moi, c'est vrai que quand vous m'avez dit l'Europe et l'islam, j'ai tendance à dire oui. Enfin, moi, ce que j'étudie, c'est les jeunes musulmans européens. Et C'est pas deux choses, c'est une seule chose.
C'est l'intitulé hein, des rencontres choisies par Thierry Fabre. Je reprends simplement l'intitulé.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors néanmoins, dans le monde musulman, il s'est passé ce qu'on évoquait en première partie, à savoir les révolutions arabes. Et quel peut être l'impact de ces révolutions arabes dans les islams européens? Et ce qui s'est passé notamment en Égypte m'invite à vous poser cette question, Alaa Laswani. Est-ce que la démocratie est soluble dans l'islam ou l'inverse?
Absolument, mais je pense qu'on doit... Il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'Occident du tout. Par exemple, qu'il y a plusieurs interprétations de l'islam. À la même manière qu'il y avait plusieurs interprétations des autres religions, en fait. Vous voyez, par exemple, être chrétien, ça veut dire vraiment une tolérance. La religion chrétienne est une grande tolérance. Et même ça dépasse la tolérance, ça c'est l'amour humain, c'est l'amour pour l'humanité, c'est le être capable de pardonner les autres, vous voyez, mais selon une interprétation négative de la religion chrétienne, c'est l'Église catholique qui a commencé l'inquisition en Espagne, et c'est l'Église catholique qui a fait les croussades.
Je vous laisse parler 30 secondes, vous dites il va falloir supprimer toutes les religions, hein. Vous allez devenir athée en quelques minutes.
Non, mais je dois seulement m'expliquer un peu, vous voyez. Alors, l'islam, c'est pas une seule chose, parce qu'on a eu en Égypte une interprétation très libérale de l'islam. 1899 a été fait par Mohamed Abdou. C'est une interprétation pour la liberté de la femme, pour la démocratie, pour l'art, pour les droits des minorités. On ne sait pas. Ici, à l'Occident, on n'a jamais entendu de cette histoire, vous voyez. On sait peu de choses ou on sait rien sur une religion, et on se donne le droit de dire que ça c'est bon, ça peut marcher avec la démocratie, ça ne peut pas marcher. Et c'est vraiment, ça m'étonne qu'il y a vraiment un manque incroyable d'informations sur l'islam. Vous voyez? Alors, même l'interprétation de l'islam qui existe maintenant à l'Occident, c'est du wahhabisme. Vous voyez, la plupart des mosquées de l'Occident ont été soutenues par les wahhabites pendant des années et des années. Et ce sont les gouvernements occidentaux qui ont laissé faire. Pourquoi? Parce que le wahhabisme vient de l'Arabie Saoudite et parce que aucun premier ministre occidental ose dire un mot contre l'Arabie Saoudite à cause du pétrole. Alors, vraiment, c'est le moment de ne pas jeter... Je parle aux occidentaux, mais pas le peuple, mais les gens qui sont au pouvoir. Hein. C'est le moment de ne pas jeter nos fautes sur les autres, vous voyez.
S'il y a diverses interprétations de l'islam, et si on retient prioritairement, comme vient de le dire Alaa Laswani, le wahhabisme, donc la version la plus rigoureuse, hein, la plus intolérante, hein, c'est aussi Margaret Swan, parce que qui parle au nom de l'islam? C'est un vrai problème. Qui détient la vérité compte tenu des multiples et des multitudes d'interprétations qu'il y a du Coran? Et donc ça pose évidemment un problème sur lequel vous avez travaillé, qui est la formation des imams.
Oui. Alors en Allemagne, on a remarqué qu'on a, contrairement aux catholiques, aux protestants et aux juifs, on n'a pas une formation religieuse. Alors l'Allemagne, c'est un pays séculaire, c'est pas laïque comme la France. Alors l'État qui donne à l'université la possibilité pour éduquer les scientifiques, les savants de la religion, quoi. Alors ça existe pour les catholiques, pour les protestants, mais pas pour les musulmans. Et maintenant, on aimerait bien instaurer à certaines universités en Allemagne une formation théologique pour les musulmans. Mais le problème, c'est exactement ça qui parle pour les musulmans en Allemagne. Parce que c'est pas l'État qui a le droit de faire un curriculum. Alors, le curriculum religieux doit être fait par les religieux. Alors, on essaie maintenant de trouver des gens qui peuvent aider à faire un curriculum. Alors, on cherche un peu partout dans le monde. Et on espère qu'après 5 ou 6 ans, on va avoir les propres théologues qui sont issus des universités de l'Allemagne. Mais le problème, c'est qui parle pour les musulmans. Parce qu'en effet, en Allemagne, il y a des musulmans dans tous les pays du monde. Alors, et jusqu'à maintenant, c'est pas possible qu'il y ait une seule institution qui parle pour tous les musulmans. Là, c'est un problème. Et vous avez dit des formations des imams, ce que j'ai fait, ça c'était pas du tout théologique. C'était une formation surtout envers les droits, envers la municipalité.
Alors, effectivement, connaître, découvrir, mieux comprendre, mais comment s'y prendre, Farid El Belkacem, compte tenu du fait qu'il parle au nom, vous êtes française, qui parle au nom de l'islam en France, et qui dit la vérité. Celui qui sera pendu, dit le chanteur, mais surtout si c'est le premier, mais tout de même.
Non, c'est l'immense difficulté, hein, c'est de dire... c'est quand même, pour le coup, la question des différences d'origine devrait être moins prégnante avec la génération qui est en train de devenir adulte actuellement, puisque cette génération est française. Mais il y a toujours ce manque de représentativité, pour moi, qui est surtout dû à un conflit générationnel, à une rupture générationnelle. Les personnes qui parlent de l'islam sont souvent bien plus âgées que nous et parlent de choses qui ne correspondent pas forcément à ce dont on a besoin. Et ça, c'était flagrant dans les entretiens que j'ai faits pour ma première étude sur le sujet, dans des salles de prière, dans des universités anglaises et dans des mosquées à Paris, puisqu'il n'y a pas de salle de prière dans les universités parisiennes. Et les jeunes me disaient, mais moi, l'imam ne m'entend pas, ne me comprend pas. Déjà d'une, il parle souvent la langue du pays d'origine. Alors, aller lui parler de mes soucis personnels, c'est impossible. Et ce souci... Cette incapacité à communiquer avec l'imam, avec le représentant, elle se retrouve plus largement dans les instances de représentation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parmi les musulmans de France, il y a des musulmans qui ne sont plus du tout croyants. Pour autant, ils sont concernés par certaines questions. Les avis, je veux dire, sont des questions très concrètes. L'éducation, l'introduction du halal, ce genre de choses, sont très divers sur la question. C'est parce qu'on n'a pas de communauté musulmane en France, à mon sens, de communauté unie, que ces questions prennent le temps qu'il faut pour les résoudre.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe est à Marseille dans le cadre des rencontres d'Averroès. L'Europe et l'islam, on débat et des heures et des heures ne suffiraient pas. Il y a en France un terme quand même qu'on emploie souvent, même si on y fait peut-être un peu moins référence, c'est la laïcité. Alors laïcité, c'est une spécificité française. En Allemagne, Marguerite Spohn, vous avez rappelé que l'Allemagne est sécularisée. On paye ses impôts à une église et si on veut pas les payer, il faut vraiment se bagarrer pour ne pas les payer. C'est pas le cas de la France où le pays est laïque. C'est par exemple la explication pour laquelle il n'y a pas de mosquée dans les universités, par exemple, Farid El Belkacem. Comment peut s'inscrire, comment doit s'inscrire, l'islam d'Europe, mais l'islam français ou les islams français dans le cadre de cette laïcité qui est quand même importante en France et qui est un des fondements de la République. Évidemment, Fethi Ben Slama, que je regardais, il se demandait si j'allais lui donner la parole.
je m'articule avec ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on dit qui parle au nom de l'islam, c'est bien ça le grand problème. C'est que aujourd'hui, il faut dire, il y a une guerre civile à l'intérieur de l'islam pour savoir qui peut parler au nom d'eux. Et le nom d'eux, c'est quoi? C'est le pouvoir suprême. Quand vous dites au nom de la République française, vous êtes autorisé à parler au nom d'eux. C'est le pouvoir le plus haut, la souveraineté. Donc aujourd'hui, il y a une guerre civile autour de ça. Qui peut dicter, dire qu'est-ce que l'islam? Bon, alors il y a plusieurs façons de régler ce problème-là. C'est, par exemple, les États ont eux-mêmes pris le pouvoir sur l'islam pour empêcher que quelqu'un d'autre parle au nom d'eux. En Turquie, par exemple, en Tunisie, c'était le cas, etc. Dans beaucoup de pays, le choix, c'est que l'État s'empare de ça pour que personne... C'est comme la violence, le monopole de la violence doit être entre les mains de l'État. Eh ben, il y a des solutions pour dire, c'est l'État qui doit avoir le monopole de le nom d'eux. Et donc, voilà. L'autre solution, ça consiste à faire en sorte qu'il y ait des savants, des gens qui ont le savoir et qui empêchent que les imams improvisés, les clowns de Dieu, moi je les appelle comme ça, et qu'ils leur enlèvent cette capacité de parler au nom d'eux. Et ça, c'est le travail de la formation, de l'instruction, etc. Bon, on vient à la laïcité. La laïcité, c'est bien ça. C'est que le nom d'eux n'appartient plus à la religion. Mais il appartient à une instance qui n'a pas de confession, qui est neutre. Bon. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, qui est un processus historique, qui a du mal à s'installer dans le monde musulman, mais ça se fait petit à petit, hein, c'est un processus.
C'est pas vraiment une laïcité, effectivement, là-bas.
Hein? Thierry Fabre.
Ce n'est pas vraiment une laïcité, c'est autre chose, c'est une autre trajectoire, au fond.
C'est une autre trajectoire. Ce n'est pas tout à fait la laïcité à la française, c'est quelque chose où je pense que, par exemple, actuellement, en Tunisie, les mouvements islamistes sont en train d'appeler l'islam civil. Qu'est-ce que c'est l'islam civil? Eh bien, c'est au fond un islam qui ne veut pas nécessairement se confondre avec l'État. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une autre voie. C'est pas la laïcité à la France.
C'est le début de la laïcité. C'est le début de la séparation des églises, des religions et de l'État.
C'est un début.
Ça rappelle la loi de 1905 en France.
C'est un début où le politique gagne son autonomie en tant que politique. C'est ça, l'affaire de la laïcité, en fait. C'est que le politique devient en lui-même une entité reconnue en tant que telle. C'est-à-dire que le politique est le lieu du pouvoir. Et non pas le scientifique, non pas le religieux, non pas, etc. C'est l'autonomie du politique, c'est ça la révolution européenne des droits, c'est l'autonomie du politique par rapport au reste. Pas seulement de la religion, d'ailleurs, il y a d'autres choses par rapport auxquelles, par rapport à l'économie, par exemple. L'autonomie du politique par rapport à l'économie. Ben, aujourd'hui, cette autonomie est mise en cause, par exemple, dans l'ultralibéralisme. Et vous voyez bien comment, aujourd'hui, les marchés dictent aux politiques et même défont sont en train de défaire des premiers ministres, changer, voilà. Donc la question, il faut parler de l'autonomie du politique par rapport à d'autres forces qui sont l'armée, qui sont l'économie, qui sont la religion, qui sont etc. Et cette idée de l'autonomie du politique est une conquête extraordinaire qui s'est faite par la rationalisation du politique en Europe, qui a pris en quelque sorte son autonomie. Eh bien, c'est ça qu'il faut.
On voit l'héritage d'Averroès, justement.
Ben oui, alors, absolument.
Thierry Fabre, un drôle de moyen de rappeler qui est Averroès. Souvent, je pose la question qui est Averroès. C'est le moment de le dire en 5 secondes, Thierry Fabre.
Philosophe, juriste, homme de pensée, de foi, qui a écrit le fameux traité décisif sur la distinction de la raison et de la foi et qui a joué un rôle très important dans le processus de rationalisation qui s'est construit en Europe.
Oui. Et qui fait, j'ajoute à ce que dit Thierry, fait dans ce texte qui s'appelle le traité décisif, qui dit au fond, c'est la souveraineté est entre les mains de la logique. C'est-à-dire ce qu'on appelle, l'époque était la science. C'est-à-dire que la religion doit se soumettre aux lois de la logique. Voilà, c'est extraordinaire. On a déjà donc là quelque chose, une affirmation. C'est pas seulement, vous voyez, la séparation, c'est l'autonomie du politique. Et c'est ça qui est important.
Alain Al-Aswani, il se passe plein de choses en Égypte. Évidemment, le monde et l'Europe a les yeux tournés vers ce qui se passe en Égypte, parce que l'Égypte, c'est le grand pays musulman. Il faut rappeler 85 millions d'habitants. Et c'est un peu l'Égypte qui va donner le « là » dans ces rapports entre l'islam et l'Europe. La façon dont ça va se passer en Égypte dans les mois et dans les années à venir sera essentielle, je pense, pour les relations que les musulmans et les non-musulmans d'Europe pourront établir avec le reste du monde musulman. Alors, je ne vous demande pas de regarder dans votre boule de cristal, car vous êtes, l'Égypte est dans une phase révolutionnaire. Mais vous n'êtes pas sûr d'y trouver quelque chose. Donc, on est dans une phase de transition et c'est extrêmement difficile de savoir ce qui peut se passer, mais est-ce que vous êtes conscient que c'est important ce qui se passe chez vous, pas seulement pour l'Égypte et les Égyptiens, mais pour le reste du monde?
Oui, mais il y a ici deux choses. La première chose, que on a toujours connu l'islam en Égypte comme une grande religion, mais pas comme un programme politique du tout. Vous voyez? Alors, c'était le commencement des années 80. Avant, il y avait les frères musulmans dès 1928, mais ils n'ont pas vraiment changé la mentalité égyptienne. On a eu, comme je viens de dire, à cause de Mohamed Abdou, de cette interprétation très tolérante de l'islam, on n'a jamais pensé que l'islam, c'est un moyen politique pour arriver au pouvoir. Et je dirais même le contraire, que ce concept a été refusé par tous les penseurs égyptiens du XXe siècle, jusqu'à les années 80. On a commencé à avoir le wahhabisme, qui est une interprétation soutenue par l'argent du pétrole, et qui donne toujours des problèmes, parce que ça pousse l'islam à être l'islam politique, ce que j'appelle l'islam politique. Alors, maintenant, on doit, après la révolution, on doit passer l'examen, vous voyez. Les gens doivent apprendre en Égypte, dans le monde arabe, que la religion, c'est une chose, et l'usage politique de la religion, c'est autre chose. Vous voyez? Et c'était toujours...
Est-ce qu'on en prend le chemin?
Oui, c'est... Non, du tout. Moi, je pense que c'est un examen d'un an ou quelques mois, vous voyez. Parce que, on voit très clair. Moi, je pense que les islamistes, maintenant, malgré le fait qu'ils sont soutenus par des millions de dollars qui viennent des groupes wahhabites du Golfe, et qui peuvent, il y a vraiment des possibilités qu'ils peuvent avoir même une majorité au Parlement, mais je pense, comme quelqu'un qui essaye de sentir ce qui se passe en Égypte, qu'ils sont en train de perdre, vous voyez, de perdre. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ils sont vus par pas mal d'Égyptiens comme des hommes qui veulent le pouvoir. Vous voyez, ça c'est très clair. Je dois ajouter quelque chose. Ça c'est le problème de l'islam politique dans le monde d'Europe. Mais moi je pense que le problème de l'islam en Europe, c'est pas l'islam politique. C'est que la question que c'est vraiment doit être très claire. Est-ce que les gouvernements occidentaux considèrent les musulmans comme des citoyens? Oui,
à part
ou
entière.
Non. Oui. Non, je parle vraiment parce que c'est une question que je pense qui peut vraiment nous conduire à la solution. Vous voyez, moi je pense jusqu'à maintenant, même si vous avez un passeport français, je parle pas de la France, l'Allemagne peut-être, il y a d'autres pays où le problème est plus compliqué. Vous voyez, moi je pense, selon mon expérience, que si vous n'êtes pas blanc en Europe, hein, même si vous avez un passeport, non, vous êtes immigré en fait. Vous voyez? Alors, parce que, par exemple, en Amérique, on a dépassé ça dès le mouvement de 1968. Et maintenant, on ne peut pas dire qu'un Africain, un Américain africain n'est pas vraiment un Américain.
Mais il a fallu plus d'un siècle.
Un siècle.
Plus d'un siècle, oui, largement plus d'un
alors,
siècle.
Alors, vous attendez que ça va se passer pendant un siècle?
Je vous pose la question, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais je pense que c'est très important d'être clair, vous voyez. Parce que dans la presse occidentale, moi j'ai participé à beaucoup de débats, toujours on va et vient, mais on ne dit pas la vérité. La vérité que les musulmans, pas seulement les musulmans, les Africains, ils ne sont pas regardés comme des citoyens. Et quand, par exemple, dans les aéroports, j'ai des amis qui sont des professeurs de littérature, qui disent, qui montrent un passeport italien, par exemple. Alors, l'officier continue à poser des questions. Mais vous êtes d'où? Mais pourquoi vous dites, j'ai un ami italien qui m'a noir. L'officier lui a dit, mais est-ce que il y a vraiment un Italien noir? Vous voyez, c'est ça. C'est pas la question de l'officier, mais je pense que c'est la question qu'on doit répondre. S'ils sont émigrés, alors l'État dans les pays européens, ils doivent être très clairs que vous n'êtes pas ici accepté comme citoyen. Alors vous avez le choix. S'ils sont citoyens, moi je pense que c'est pas la peine de tous ces débats, parce que les droits de citoyens doivent être égaux.
Thierry Fabre, vous allez avoir la double responsabilité de rétablir la vérité que réclamait Alaa Al-Aswani et d'avoir le mot de la fin, car on arrive vraiment au terme de cette émission.
Moi je pense que j'adhère pleinement à ce que vient de dire Alaa Al-Aswani, mais il me semble que Olivier Roy utilise une notion que j'aime beaucoup. Il dit, nous sommes rentrés dans une époque, dans un temps post-islamiste. Et je crois qu'effectivement, avec les révolutions arabes, quelque chose de nouveau est né, l'histoire a repris. Et c'est comme quand une planète, vous savez, est morte, qu'elle émet encore de la lumière. Il y a encore beaucoup d'archaïsme qui fait qu'on regarde ce monde avec des catégories liées à l'islamisme. Et je crois qu'il faut arriver à penser les trajectoires nouvelles de ce qui est en train d'advenir sous nos yeux et qui va changer profondément la donne des relations entre les deux rives de la Méditerranée.
Thierry Fabre, Farida Belkacem, Margaret Spohn, Fethi Benslama, Alaa Houssani, merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle vos deux livres, Fethi Benslama, Soudain la Révolution chez De Noël, et Alaa Houssani, évidemment l'immeuble Yacoubian, et puis les chroniques de la Révolution égyptienne chez Actes Sud. Merci aux équipes des rencontres d'Averroès et tout spécialement à Soisy Guinchet. Technique à Marseille, Philippe Nadel, réalisation à Paris, Mathias Golchani. Pour nous retrouver sur internet, rfi.fr, rubrique émission, et là, sur la page de Carrefour de l'Europe, les références de nos invités, le podcast, les archives sonores et plein de choses encore, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour pénétrer les coulisses de l'émission. Daniel Esquel, où que vous soyez, à Marseille, Paris, Le Caire, Tunis, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Carrefour.europe@rfi.fr.